Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Notre invité Yannick Jadot, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que je peux dire ? L'homme de l'écologie, le représentant numéro un
député
européen, un futur candidat à la présidence de la République, peut-être ?
Je ne suis pas certain que ce soit l'obsession des Français en ce moment de penser à 2022. Dans la crise.
Non, mais je vais y revenir quand même.
Ils ont la trouille pour leur boulot, ils ont la trouille pour leur entreprise.
Mais je vais en parler, j'en parle tous les matins, parce qu'on parle d'un gouvernement d'union nationale avec un contrat de gouvernement. J'y reviendrai tout à l'heure, Yannick Jadot. Bien, puisque... on parle effectivement de la crise sanitaire et du déconfinement. Est-ce qu'il faut assouplir ? Demain, on attend le Premier ministre qui va s'exprimer pour nous parler de la phase numéro 2 de déconfinement. Est-ce qu'il faut assouplir maintenant ce déconfinement ? Il faut, je sais pas moi, ouvrir les parcs et jardins, il faut ouvrir les cafés, les restaurants, les bars.
Il faut certainement ouvrir les parcs et les jardins.
Même en zone rouge.
Bien sûr, vous avez vu cette aberration, en plus on est dans une période où il fait beau, où les gens s'agglutinent autour des parcs, sont extrêmement proches les uns des autres, et vous avez ces parcs qui sont fermés, où personne ne peut aller. Je pense qu'il est temps de sortir d'une forme d'infantilisation des Français, où on leur explique qu'ils sont...
On a infantilisé les Français pendant ce confinement.
On les a infantilisés, on les a culpabilisés.
Infantilisés. Mais beaucoup de Français ont peur. Ils ont 50% des Français sont regardez, très prudents, Yannick Jadot.
Mais la question de l'infantilisation n'est pas en lien avec la prudence. Les Français ont été extrêmement responsables pendant ces périodes. Mais quand on leur explique le matin que, franchement, s'ils sont pas sages, s'ils se comportent mal, on va reconfiner. C'est une forme de culpabilisation. Quand on explique que... il faut que ce soit le Conseil constitutionnel quasiment qui décide si on peut se réunir chez soi ou pas, à plus de 10. Quand on interdit les parcs et les jardins, alors que partout en Europe, les Européens sont responsables. Bon. Ils ont bien compris qu'il y avait un danger, ils ont bien compris qu'il ne fallait pas faire la fête tous ensemble dans les parcs et les jardins.
Compris, ça dépend
mais
où,
on
ça
a
dépend
besoin, mais... on a besoin de la nature, on a besoin d'espace. Il faut voir aussi ce que disent les psychiatres, les psychanalystes autour de cette période. C'est dur pour les adultes, c'est très dur pour les enfants. Donc il faut ouvrir davantage d'espace.
Bon, alors Yannick Jadot, vous demandez quoi ce matin ? Vous demandez l'ouverture des parcs et jardins. Oui. On a bien compris, en zone rouge, même en zone rouge. Vous demandez l'ouverture des cafés, restaurants. Très vite, là, début juin, la semaine prochaine.
Moi, je vois beaucoup de restaurateurs se préparer très correctement à faire en sorte que ce soit possible, que ce soit respectueux des normes sanitaires. À partir du moment où c'est respectueux des normes sanitaires, je ne vois pas de raison à ce qu'on ne réouvre pas les restaurants. Le problème pour les restaurants aujourd'hui, c'est plus un sujet de rentabilité. Oui. Parce qu'à partir du moment où vous avez la moitié des tables qui ne sont pas occupées, comment vous rentabilisez votre affaire ?
Bien sûr.
Et là, de la nécessité que le soutien de l'État à la restauration, à l'hôtellerie, à tous ces lieux, soit à la hauteur de l'enjeu pour eux de garder leur affaire.
Bon, mobilité aussi accrue, au-delà des 100 km, cette règle devrait être abolie, vous demandez, terminée, les 100 km.
Non, mais il faut faire attention aux concentrations, toujours.
Oui.
Mais
permettre à chacun de circuler sur tout le territoire librement.
Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de nouveaux clusters. Mais moi, j'ai ma mère qui est en Picardie, dans l'Aisne.
Oui.
C'est à Lens, c'est à 130 km de Paris.
Oui.
Elle n'a pas vu ses enfants depuis 2-3 mois. Ben, je pense que ça serait bien que je puisse faire 130 km jusqu'à Lens.
Oui. Bien. Vous parliez d'aide. D'aide aux restaurateurs, d'aide à la consommation. Il faut encourager la consommation. Est-ce que les aides à la consommation sont indispensables, Yannick Jadot ?
Il faut une aide au pouvoir d'achat aujourd'hui. Beaucoup
donc
de Français...
Donc à la consommation.
Ça se traduira par de la consommation, évidemment, parce que vous avez beaucoup de Français...
Non, mais je vous dis ça parce que j'entends beaucoup d'associations écologistes qui disent « Attention, si on encourage la consommation pour la planète, c'est mauvais ».
Non, attendez.
Alors,
moi, je fais pas partie des personnes qui, ont considéré que ce Covid, cette pandémie, c'était un châtiment de la nature, comme la peste était un châtiment du
divin. J'ai entendu ça. Vous l'avez entendu, vous aussi?
Oui, je l'ai entendu. C'est pas un châtiment de la nature, c'est pas une punition de la nature.
Oui.
Les virus ont toujours existé. Incontestablement, il y a un lien avec la crise écologique, puisque la déforestation accroît la propagation des virus et que cette mondialisation accroît la rapidité de la propagation des virus. Deuxièmement, je ne fais pas partie des gens qui se réjouissent de la période que nous vivons et particulièrement que nous avons vécu quand nous étions entièrement confinés. Je veux dire, c'est pas un mode de vie écolo que d'être bloqué chez soi, de ne pas avoir de rapports sociaux, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir apprécier la nature, de ne pas pouvoir être avec les autres. Donc, il faut sortir de cette période-là. Et on a beaucoup de Français aujourd'hui qui sont en situation économique extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Nous, les écologistes, proposons une aide substantielle aux revenus, jusqu'à 500 euros pour les personnes qui bénéficient des minima sociaux, parce que entre l'augmentation des frais d'alimentation, parce que vous mettez plus vos enfants à la cantine, l'augmentation des frais d'électricité, vous ne pouvez plus payer vos loyers, les petits surplus
de revenus minimum provisoire,
absolument,
500 euros.
Les petits surplus que les ménages avaient par un petit boulot, parfois pas déclaré, mais qui permettait de boucler le mois, tout ça a disparu.
Pendant combien de temps, ce revenu minimum?
Pendant toute la période, au moins jusqu'à la rentrée.
Jusqu'en septembre.
Absolument. On est dans une période...
Sous condition de ressources,
Évidemment. On est dans une période extrêmement difficile. Beaucoup de Français souffrent. Il faut qu'on mette aussi le paquet sur la capacité de ces Français à affronter cette situation. De la même façon,
capacité de consommer.
Absolument. Parce qu'il faut se nourrir, parce qu'il faut que les enfants puissent retourner. Il faut dans les clubs de sport, parce qu'il va falloir que tous ces enfants qui vont être sortis quand même assez largement du système scolaire, même s'il y a eu des cours par Internet, même si une partie... Bon, il va falloir remettre ça. Et puis, c'est pour ça que j'ai demandé aussi qu'on remette en place les emplois aidés. Les emplois aidés, vous savez que des centaines de milliers de jeunes vont arriver sur le marché du travail qui aura pas de boulot. Il faut remettre 300 000 emplois aidés dès 2020. C'est essentiel pour les jeunes. C'est essentiel pour qu'il n'y ait pas trop d'éloignement du marché du travail. C'est essentiel aussi pour toutes ces associations d'aide alimentaire, de solidarité, de qui font vivre les quartiers. C'est essentiel qu'elles aient des personnes pour travailler, pour faire vivre cette solidarité.
Bien, le plan de relance pour l'automobile. Vous avez écouté le président de la République hier. Comment le trouvez-vous? Alors, je rappelle, je ne vais pas entrer dans tous les détails. On le fera si c'est justifié. 2000 euros pour une voiture, un véhicule hybride rechargeable. 7000 euros véhicule électrique. 3000 euros la prime à la conversion sous condition de ressources. Hein, encore une fois, qu'en pensez-vous?
Il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses, notamment.
Oui, ça doit vous satisfaire, non?
Il y a des bonnes choses totalement sur l'idée de favoriser l'achat de véhicules électriques ou hybrides, des véhicules moins polluants, notamment en ville.
Oui.
Sur le fait que on aide les ménages les plus en difficulté pour se débarrasser de leur vieille voiture, pour acheter une voiture.
Ça, c'est la prime à la conversion.
Qui consomme moins, ça va dans le bon sens. Il y a deux, trois choses que je regrette profondément. Un, on n'exclut pas les SUV de la prime à la conversion. Mmh. On sait qu'en 10 ans, le marché des SUV a explosé. C'est la deuxième cause de dérèglement climatique depuis 10 ans dans le monde. La deuxième cause après l'énergie. C'est-à-dire que l'explosion des SUV, ça. La deuxième chose que je regrette, on ne met pas en perspective la question de l'automobile et de l'industrie automobile. C'est quoi les deux grands sujets ? À Paris, dès 2024, on va interdire le diesel. Comme dans beaucoup de villes d'Europe, vous avez eu dans cette élection municipale 22 villes de plus de 100 000 habitants qui veulent mettre en place une limitation, parce que c'est le droit européen, c'est la protection de la santé. Attendez, ça c'est un sujet. Donc, est-ce qu'on a intégré cette question du climat et de la pollution de l'air dans ce dispositif? Non, y compris parce que toutes les associations de protection de la santé, de protection de l'environnement n'ont pas été associées.
Oui, mais Yannick
ni
Jadot.
Les collectivités locales
Yannick
qui
Jadot.
Sont responsables. Deuxième chose, si je peux me permettre
allez-y,
juste,
allez-y,
parce
allez-y,
que c'est essentiel.
Allez-y, parce que j'ai plein de questions. Allez-y.
J'en doute pas, mais comment est en train d'évoluer l'automobile? C'est en train de devenir un service. On achète moins sa voiture, l'idée c'est de la partager, l'idée c'est de faire du covoiturage, l'idée c'est de louer. Et on n'intègre pas cette évolution majeure du monde de l'automobile qui va faire qu'à un moment donné, si on n'y prend pas garde, il n'y aura plus de grands constructeurs automobiles européens, il y aura Google et il y aura les Chinois. Et moi je regrette que tout ce plan qui va mettre 8 milliards sur l'industrie automobile, à la fois n'intègre pas des acteurs essentiels de la question de la mobilité, n'intègre pas les enjeux essentiels aujourd'hui. Quelle place pour la voiture? Quelle voiture qui consomme peu? On a oublié la voiture à 2 litres.
Yannick Jadot, 1 million de véhicules propres fabriqués en France en 2025.
Tant
vous
mieux.
Y croyez ou pas?
C'est bien. Quand on a fait le Grenelle de l'environnement en 2009, il devait y en avoir 2 millions en 2020. Vous voyez le retard qu'on a pris, considérable.
Évidemment, donc prudence.
Mais attention, l'idée, c'est pas de remplacer toutes les voitures thermiques.
Aujourd'hui, il y a une urgence, vous êtes d'accord? Il y a 400 000 véhicules qui sont en stock. Qu'est-ce que vous faites de ces 400 000 véhicules?
Mais est-ce que l'argent public...
Mais qu'est-ce que vous en faites?
Mais moi, aujourd'hui, je n'interdis pas.
Qu'est-ce que vous faites de tous les SUV, de tous les SUV qui sont chez les concessionnaires?
Mais je vous demande.
Aujourd'hui,
vous
les mettez à la casse.
Non. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de prime, de prime à la conversion, ces voitures ne se vendent plus. C'est l'État, c'est la collectivité qui doit financer des SUV qui nous polluent en ville et qui dérègle le climat. On a un marché automobile.
Aujourd'hui, il y a des SUV sur le marché. Il y a certains Français qui ont envie de les acheter.
Vous les empêchez. Mais je les empêche pas. Bon, aujourd'hui, je n'interdis pas les SUV.
Mais vous ne comprenez pas qu'on converse une prime à la conversion sur ces modèles-là.
Exactement. Il y a deux choses que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des SUV qui sont vendus en concession qui ne respectent pas les lois sur la pollution de l'air et sur les émissions de CO2? Vous savez que la plupart des SUV, aujourd'hui, ils polluent 5 fois la norme, alors qu'on a 67 000 morts prématurées dans notre pays par an liées à la pollution de l'air. Donc, moi, je voudrais interdire la pub pour les SUV. C'est pas nouveau. On promeut un véhicule qui, aujourd'hui, pollue notre santé, contamine nos organismes et participe largement au dérèglement climatique. Donc moi, aujourd'hui, je n'interdis pas la production des SUV, mais je ne veux pas que de l'argent public finance le développement des SUV dans notre pays.
Bien, Yannick Jadot, parlons de l'Europe. Ensuite, je vous parlerai de la politique française, politique politicienne. Parlons de l'Europe avec cet appel franco-allemand pour la réouverture des frontières entre pays européens. Là, vous appuyez cet appel?
Bien sûr.
Vous aussi?
Bien sûr.
Il faut ouvrir les frontières, là.
Mais bien sûr. Enfin, je veux dire, on a...
Oui.
Malheureusement, vous le savez, l'Europe a été très peu coordonnée sur le confinement. C'est une triste nouvelle pour l'Europe. Les États ont fait chacun dans leur coin. Bon. Le déconfinement n'a pas été beaucoup plus coordonné. Mais expliquez-moi pourquoi on devrait fermer la frontière entre la France et l'Allemagne, alors qu'il y a tant de Français qui vont travailler en Allemagne et tant d'Allemands qui vont travailler
Pour les frontaliers, les frontières sont toujours ouvertes. Elles sont restées ouvertes pour ceux qui travaillaient.
Bien sûr, pour
tout le monde.
Mais pour
les touristes européens, en quelque sorte.
Je pense que, moi je souhaite que les Français aillent en vacances, pour ceux qui pourront partir en vacances, qu'ils aillent en vacances en France. Notre pays est absolument extraordinaire.
Ils peuvent aussi aller. Vous souhaitez aussi qu'ils aillent en Italie ou en Espagne?
S'ils veulent y aller, ils peuvent y aller, mais profitons pour redécouvrir notre pays et faisons en sorte, c'est aussi une proposition que nous avons défendue, qu'il y ait mis en place un chèque vacances. Vous savez, ce chèque vacances, il existe. Tout le monde connaît à peu près le dispositif. Il y a des millions et des millions de Français qui en bénéficient. On peut le renforcer massivement pour que, notamment, les ménages qui sont en difficulté financière, dont les enfants ont été confinés, peut-être pourront pas partir en colo parce qu'on sait pas encore quel va être le dispositif pour partir en colo, pourront pas partir chez leurs grands-parents parce qu'il y a toujours la trouille de contaminer les grands-parents, que toutes ces familles puissent bénéficier d'une semaine de vacances en France, c'est bien pour notre industrie du tourisme, c'est bien pour les Français.
Plan de relance de la communauté européenne, de l'Union européenne, dévoilé aujourd'hui, on attend ça avec impatience, beaucoup d'États attendent ça avec impatience, notamment les États du Sud, 1000 milliards d'euros, dit-on. Vous connaissez le chiffre, c'est...
On serait plutôt un petit peu en dessous, probablement, pour la Commission, autour de 700-800 milliards annoncés.
Plus les 500 milliards annoncés de prêts franco-allemands.
Ah non, c'est la même chose.
C'est la même chose.
Non,
je dis ça comme ça.
Nous, on rêve. Comment si l'argent... Voulez, le Parlement européen a voté pour 2000 milliards. C'est pour ça que c'est nécessaire au regard de la dépression économique, au regard des besoins sociaux, au regard des besoins de transition écologique, qui sont ceux qui créent le plus d'emplois. Vous savez, il y a une formidable étude d'Oxford, de l'université d'Oxford, qui a étudié tous les plans de relance de 2008.
Oui.
Les plans de relance qui ont le mieux contribué à l'activité économique et à la création d'emplois, c'est ceux qui ont le plus pris en compte la question du climat. Tout ça pour dire que ce débat, la vieille économie qui nous permet de sauver les emplois ou l'écologie qui en détruirait, c'est un faux débat.
Bon,
plus on investit sur le vert, plus on crée de l'emploi. Bon.
Subvention ou prêt pour les États membres?
Là, on est justement sur une clé de répartition intéressante parce qu'on serait sur probablement 2/3 à 80% de ce plan de relance qui serait des dons pour les pays et les secteurs les plus impactés.
C'est absolument essentiel. Il y a 4 pays qui veulent pas de ça, hein, vous le savez. Hein.
Écoutez, l'Allemagne a changé de camp.
Oui, l'Allemagne est venue vers nous, vers l'Italie, vers l'Espagne.
L'Allemagne a compris que le projet européen était en danger. Si on continuait vers ces égoïsmes nationaux, si on laissait l'Italie, l'Espagne, la Grèce et une partie des secteurs économiques français s'effondrer par manque de solidarité, c'est toute l'Europe qui s'effondrait. Donc l'Allemagne a changé de position et c'est heureux. Donc il faut ces prêts, surtout ces dons pour les pays les plus impactés, et il faut surtout les réorienter vers ce qui est utile. Est-ce que on refait l'économie d'avant qui nous a montré une telle vulnérabilité de nos sociétés économiquement, du point de vue sanitaire, comme ça l'est du point de vue énergétique, où on devient souverain du point de vue de notre alimentation et de notre agriculture, du point de vue de notre énergie, du point de vue du numérique.
Souverain
du point
en
de
Europe.
Vue du, évidemment,
et pas
souverain.
National, vous n'êtes pas sur le protectionnisme, je le rappelle.
Non.
Sur le patriotisme économique.
Face à Trump.
Oui.
Ah, moi, j'ai du patriotisme économique. Moi je vais au salon du Made in France, je travaille beaucoup avec les PME qui sont essentiellement des PME de territoire. Je discutais encore il y a quelques jours avec le patron de la Confédération des PME. Mais ils pensent comme nous aujourd'hui. Ils disent emploi territorial au niveau de la rénovation de nos bâtiments, au niveau de la rénovation de notre patrimoine, des bâtiments publics. Ils disent il faut investir sur les secteurs qui sont riches en emplois. Comme nous, les énergies renouvelables, les circuits courts en agriculture, les services de proximité. Donc au fond, l'écologie aujourd'hui est la matrice la plus rationnelle pour l'économie et la création d'emplois.
Bien. Est-ce qu'on peut imaginer un gouvernement d'union nationale? Vous accepteriez ou pas? Imaginons, Emmanuel Macron vous fait la proposition. Allez, entrez au gouvernement sur un contrat de gouvernement, avec un contrat de gouvernement. Vous accepteriez ou pas? Franchement,
aujourd'hui,
je vous pose la question.
Aujourd'hui, tout ce qu'on entend, c'est du casting et du débauchage.
Non, mais attendez.
Non, mais c'est ça.
Est-ce que vous accepteriez avec un contrat de gouvernement?
Aujourd'hui, moi, je ne vois pas. Je vais vous dire.
Vous accepteriez ou pas?
Tous les matins.
Non, question, elle est simple. Non, mais
vous savez, les écologistes ont toujours pris leurs responsabilités.
Je sais.
Pour
c'est pour ça que je pose la question.
Pour agir au service des Français.
Bon, alors.
Mais quand je vois ce gouvernement. Qui relance les mines d'or en Guyane. Qui, sur les questions sociales, malheureusement, n'est pas encore à la hauteur.
Mais avec un contrat de gouvernement, est-ce que vous accepteriez ou pas?
Si Emmanuel Macron était capable de mettre en place, finalement, ce que serait un gouvernement de cohabitation.
De cohabitation.
C'est-à-dire un gouvernement qui ne répond pas à son projet politique, qu'il a développé pendant 3 ans. Que ce soit un contrat qui soit l'écologie, la solidarité, la cohésion sociale autour de la République et l'Europe, vous voyez bien que ça n'a plus rien à voir avec Emmanuel Macron. Donc si Emmanuel Macron est prêt à dire « je me suis trompé pendant 3 ans, je n'ai pas tenu ma promesse de réconcilier les Français, je n'ai pas tenu ma promesse d'apaiser notre société et de porter l'écologie et la solidarité », je laisse à d'autres le soin de gouverner ce pays pour porter ce projet-là. Pourquoi pas ? Mais reconnaissons que la question qui nous serait posée, c'est et si Emmanuel Macron n'était plus Emmanuel Macron, est-ce que vous seriez prêt à gouverner avec un écologiste et
quelqu'un,
un humaniste et un progressiste ?
Si je comprends bien, c'est simple. Si Emmanuel Macron vous propose un contrat de gouvernement et vous laisse appliquer les mesures que vous avez envie d'appliquer, vous dites oui.
Ah ben si c'est un gouvernement écologiste qui est désigné un gouvernement d'humanistes, un gouvernement progressiste, un gouvernement qui remet le pacte républicain au cœur de la société, évidemment, on réfléchirait. Mais je ne vois pas Emmanuel Macron aujourd'hui changer totalement de logiciel. Son logiciel est caduc.
Bien.
Il n'a pas tenu sa promesse, le président de la République.
Yannick Jadot, c'est intéressant tout cela. Mais Yannick Jadot, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous allez faire à Paris ? Que va faire votre candidat à Paris ?
Écoutez, là, on vient d'avoir une date probable, possible.
28. Vous étiez contre cette date.
Moi, je pense que, si vous voulez, il y a un enjeu majeur qui est de respecter, évidemment, la sécurité sanitaire.
Oui.
Il y a aussi un enjeu majeur qui est qu'on puisse faire campagne.
Oui.
Donc j'espère que d'ici le 28 juin... Parce que, regardez, qu'est-ce qui s'est posé comme question ?
Non, mais attends,
qu'est-ce qui s'est posé comme question ? C'est essentiel. Oui. Heureusement, les écologistes y répondent. Partout, ils sont candidats. La densité des villes. Oui. La nature en ville, la question de l'autonomie, la question du télétravail, la question des transports.
Candidat,
j'en sais rien.
Vous savez,
il discute avec Anne Hidalgo. Mais vous savez, je vais vous dire, dans toutes les villes, et c'est là qu'on voit parfois les limites des conversions à l'écologie, dans la plupart des villes où, y compris, on a des candidats en situation de gagner, les socialistes n'acceptent pas que les écologistes aient enfin leur place et puissent être des leaders dans les villes. Donc, ça, c'est un problème, et ça sera un problème aussi dans la négociation à Paris.
Merci. 8h55, Yannick Jadot, merci.